sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
La vie comme un long fleuve, joyeusement intranquille, du côté de Yopougon. La vie comme une immense bande dessinée à flâner avec ses grandes gazeuses de Bintou, Adjoa et Aya. C'est quoi même, comme on dit à Abidjan. Eh ben, c'est l'heure de s'enjailler dans cette rediffusion et dans la Côte d'Ivoire de Marguerite Aboué et de son talent de raconteuse qui n'est plus à démontrer. Depuis son prix du premier album au Festival d'Angoulême en 2006 pour Aya de Yopougon, écoulé à 700 000 exemplaires, incroyable, Miss Aboué ouvre un à un ses tiroirs où ses histoires racontent toujours l'Afrique et ses tracas, mais avec ce petit supplément d'humour qui fait la différence. Écrivaine, scénariste et réalisatrice, elle n'arrête pas. J'ai même passé mon week-end sous la couette avec le commissaire Kwame, mais oui, avec aussi cette adorable peste d'Akissi et cet ange migrant de terre gâtée. C'est pas de tout repos, mais Initché. Merci Marguerite, merci Gallimard. Sans parler de sa série panafricaine C'est la vie, adaptée en radio et, tenez-vous bien, diffusée sur RFI à partir du 1er juillet jusqu'au 12 août à 12h10, temps universel. Bienvenue en sol majeur, Marguerite Aboué.
Ah, merci.
C'est quoi votre tout premier souvenir d'enfance?
Alors, c'est essayer de manger en cachette sous le lit, mais à loco. C'est ça.
И грамоте-то учили, чтоб к власти прийти, темнотой его воспользовавшись. Что русский, одна кровь, одна земля.
Alors, est-ce qu'avec tous ces sons qui valsent comme ça dans nos oreilles, on est déjà un petit peu au pays de votre enfance, Marguerite?
Alors, le russe, c'est mes premières années à Paris, avec ce grand-oncle qui me retire comme ça de ce quartier aimé et qui m'emmène avec lui à Paris. Et ce grand-oncle a lui fait toutes ses études de médecine en Russie. Et il parlait le russe. Alors moi, pour moi, c'était un ovni, ce monsieur, que je découvrais petit à petit. Parce que quand il venait voir sa nièce, donc ma mère, à Yopougon, les seuls souvenirs que j'avais, c'était quelqu'un qui nous chassait dans la rue, qui trouvait que j'étais une petite dévagondée, et que je me promenais torse nu, qui exigeait que ma mère m'habille comme une petite fille très sage. Et je me retrouve avec ce monsieur à Paris, chez lui, et je découvre qu'il parle le russe. Et tous les matins, il nous réveillait avec de la musique russe. Je détestais ça à l'époque, mais ça fait vraiment partie de mon enfance, oui.
Il est mieux d'avoir un œuf aujourd'hui ou une poule demain.
Il est le baril. Un bon fils, bon filou, retourne toujours à la maison. À casa torna.
El yujad mithl.
Y a-t-il un proverbe ou une devise
يسيطر على وجودك
qui gouverne votre existence?
Mais oui, j'en ai énormément parce que moi j'ai grandi avec des proverbes. Mais il y en a un que ma mère nous disait, qui aujourd'hui qui me suit, c'est lorsque tu es avec des crapauds, accroupis-toi, ne demande jamais une chaise.
Waouh. Comment on dit ça en langue?
Oh là là, ça c'est compliqué. En fait, elle le disait en français. Hein, mais
ça veut dire quoi alors?
Alors ma mère nous a toujours élevés comme si un jour on allait la quitter. Donc elle voulait qu'on respecte les gens. Elle nous a appris, oui c'est ça, la tolérance et puis la curiosité. Elle nous laissait, c'est vrai, aller chez tous les voisins, manger, dormir. Pour elle, c'était la base, en fait.
Oui. C'était bienvenu de la part de votre mère, parce que ce proverbe vous a aidé, effectivement, Marguerite Aboué, à vivre un peu n'importe où, parce que vous, gamine des années 70, vous êtes née en 71 hein, à Abidjan, vous êtes éjectée, parachutée à Paris. Pourquoi vos parents, qui apparemment n'ont pas de problème matériel, votre père est chef de vente, votre mère directrice chez Singer à Abidjan, pourquoi est-ce qu'ils décident de vous envoyer toute jeune à Paris?
Je pense qu'ils n'ont pas eu à décider, ça leur a été imposé par ce grand-oncle. C'est lui qui a élevé ma mère en fait.
Pourquoi il vous a choisi, vous ?
Je ne sais pas pourquoi, moi. Je pense qu'il avait, il voyait en moi sa nièce tant aimée. Donc, je pense qu'il a fait un transfert.
Alors, comment vous, vous l'avez vécu, cette séparation ? Et avec la famille, et avec ce fameux quartier Yopougon ?
Ben, je l'ai mal vécu. J'en ai voulu à mes parents, parce que je leur ai dit qu'ils ne m'aimaient pas. Je l'ai assez mal vécu. Et petit à petit, j'ai compris que j'étais un peu la fierté de tout ce quartier.
De Yopougon.
De Yopougon.
Et alors, comment la petite Ivoirienne, avec sa personnalité bien trempée, d'après ce que je comprends, et son nouchi magnifique, comment est-ce qu'elle arrive à se faire accepter en France, dans le cercle des nouveaux petits copains français ?
Bah, en fait, quand je suis arrivée, je me souviens de cette directrice qui m'emmène dans ma nouvelle classe. Et quand elle ouvre la porte, je vois toute cette tête blonde qui me regarde. Et en fait, ce proverbe de ma mère qui m'est revenu tout de suite. Et je me suis dit dans ma tête, vous, vous allez m'aimer. À Yopougon, j'avais mon club de copines. Je jouais au foot avec les garçons. Enfin, j'étais un peu une petite espiègle. Et j'ai pas eu de mal à me faire accepter. Parce qu'il fallait que je leur dise d'où je venais. Parce que les questions qu'ils me posaient me choquaient. Ils me demandaient si on avait des écoles, où est-ce qu'on habitait, est-ce qu'on avait des voitures. Je me suis dit, mais vous, il faut que je vous raconte d'où je viens, il faut que je vous raconte l'Afrique. Et je leur ai raconté des histoires. Bon, parfois, je m'égarais beaucoup. Hein. Je leur disais que je chassais le lion, par exemple, dans la forêt avec mon grand-père. J'ai une vraie morsure de serpent. Et ça, je peux vous dire que...
Vous en avez fait des films.
Bien sûr, j'ai beaucoup d'argent parce que je demandais de l'argent pour pouvoir l'avoir aussi. Non, mais je...
Il était une fois.
Il était une fois à Kissy, haute comme trois pommes, avec des petites tresses multicolores et un petit nez pointu. Qui c'est à Kissy, Marguerite Aboué ?
À Kissy, ben c'est moi. C'est moi, c'est toutes les bêtises que je faisais à Abidjan. Et c'est la seule bande dessinée autobiographique. Mais quand je raconte à Kissy, je ne me projette pas totalement parce que je pense à tous ces jeunes Africains qui ont vécu les mêmes bêtises qu'à Kissy. Et du coup, pour moi, ce n'est pas aussi autobiographique que ça.
Et pourquoi alors cette petite Marguerite s'appelle à Kissy ?
Oui, parce que quand j'étais petite, encore à Yopougon, toutes mes copines s'appelaient à Kissy, Aya, Bintou, Adjoa. Et moi, Marguerite. Et on se moquait beaucoup de ce prénom. On disait que j'avais un prénom de vieille femme blanche morte.
Waouh !
Oui, et...
L'humour est méchant, hein, à Yopougon et à Abidjan. Hein.
Mais en même temps, moi, je fais partie de cette génération qui a vécu le gat-gat. Le gat-gat, c'est une joute verbale. On s'envoie des pics jusqu'à ce que...
L'autre tombe.
L'autre abandonne.
Alors on la suit, c'est à Kissy depuis le premier volume intitulé « Attaque de chat » paru en 2010. Et puis on la retrouve aujourd'hui dans ce septième volume « Faux départ » qui paraît donc chez Gallimard, comme toujours signé sur votre scénario à vous, avec là des illustrations d'un certain Mathieu Sapin. Et l'album se décompose en petites scénettes dans ce fameux Yopougon des années 70 que la petite Pélagie, haute comme trois pommes également, et la petite Akissi ne veulent absolument quitter pour rien au monde. C'était quoi ce charme du quartier de Yopougon dans les années 70 ?
Alors, je vous emmène en terre chahuteuse, chaleureuse. Vous allez voir, ce quartier, c'est un quartier qui n'est pas très riche, mais les gens sont riches. Sont riches parce que ils viennent de partout. Moi, j'ai vécu avec des Burkinabés, il y avait des Maliens, il y avait des Sénégalais, des Ghanéens, des Camerounais. Et toutes ces personnes nous ont apporté quelque chose, en tout cas, de leur culture. Et moi, je suis né avec ça. Et comme tous les petits Yopougonais, on est obligé de vivre avec l'autre. On a le goût de l'autre. Et je pense que rien que ça, ça vous forme culturellement. Vous avez plusieurs patries culturelles.
Alors entre son grand frère, moi je retourne à la BD, hein, entre son grand frère Fofana et son petit singe Boubou qui la suit partout comme un vrai doudou. Vous racontez tous les subterfuges que trouve cette petite Akissi pour ne pas partir en France. Subterfuge numéro 1, redevenir un bébé. J'aimerais bien que vous choisissiez une planche pour nous suggérer, Marguerite Aboué, le style de cette série Akissi.
Bah justement, moi je m'étais un peu arrêtée sur la planche Adieu Paris, où Akissi est avec Fofana et Victorine dans leur chambre. Et justement, ils sont déguisés. Victorine, la sœur d'Akissi, donc, qui est toujours très sexy, qui a toujours des mini-jupes. Elle se retrouve aussi avec une robe qui la recouvre un peu de partout. Elle dit à ses frères, je déteste cette robe, elle est beaucoup trop longue. Fofana, qui est toujours aussi en short et en... se retrouve habillé avec un pantalon, une veste, une petite cravate, et qui lui dit à sa sœur, mais plains-toi et moi, on dirait Charlie Chaplin. Il ne manque que le chapeau. Et puis Akissi, avec sa belle robe en dentelle, son petit nœud sur la tête, ses chaussures, et qui, elle, faut la voir avec sa grosse tête toute rouge, qui dit, mais pourquoi on doit se déguiser comme ça? Je suis laide. On dirait Nelly Olson, cette nullos. J'aime bien, parce que ça décrit vraiment cette bande d'enfants horribles qu'on était.
C'est marrant que vous disiez horrible, moi je dirais pas ça du tout. J'y trouve en fait l'expression d'une enfance très libre, très joyeuse, très créative, une enfance africaine qui fait envie. Et c'est ça la force de votre travail en général, Marguerite Aboué. C'est une mini-société ivoirienne.
Oui, non, mais c'est ça, en fait, les enfants, ce qui est génial, c'est que les enfants font leur vie. En fait, on n'est pas dans les problèmes des adultes.
Et en même temps, vous êtes éclaboussée par les problèmes des adultes. Votre petite copine dans cette série qui s'appelle Pélagie, elle arrive et elle dit « Mes parents vont divorcer ». Donc ça a des conséquences terribles sur son enfance. Elle sait qu'elle va devoir... peut-être retourner au village, aller au village, et ça c'est la mort dans l'âme, parce qu'elle aussi elle ne veut pas quitter Yopougon, donc subterfuge, comment faire pour que les parents redeviennent amoureux par exemple.
Oui c'est ça, oui bien sûr qu'on n'est pas éloigné des problèmes des adultes, mais on n'a pas cette pression. En fait, Pélagie, sa mère a dû lui dire que son papa va prendre une deuxième femme, et cette femme a dû se dire, non, moi je préfère divorcer. Et ça, juste de dire que ces femmes africaines, en tout cas de l'époque, elles ne se laissaient pas faire.
Et, ça a changé
et, parce que moi j'ai eu cette chance de vivre après l'indépendance. Donc j'ai vu, moi, toutes ces mamans, ces femmes, qui elles étaient super indépendantes. Elles travaillaient, moi ma mère elle travaillait chez Singer, elle avait sa voiture, elle mettait des pantalons, des pattes d'elfes. Elles osaient plus, alors qu'aujourd'hui, il y a cette crise qui est un peu partout et donc ces jeunes femmes, c'est beaucoup plus difficile en tout cas pour elles aujourd'hui, c'est vrai.
Vous diriez que vous vous êtes mis à l'écriture, Marguerite Aboué, pour sauvegarder cette boîte noire qu'est l'enfance, mais aussi pour sauvegarder une part de votre identité?
Oui, en fait j'ai commencé comme ça. Pour moi, il fallait raconter d'où je venais, sinon je me perdais. J'avais l'impression que si je ne racontais pas cette histoire, j'allais oublier d'où je venais. C'est ça.
C'est un sac d'histoire qui ressemble à un sac de billes. Hein.
Oui, c'est vrai.
Vous continuez c'est à vrai. Jouer votre enfance, finalement. Oui, et puis, c'est effectivement pour lutter contre une forme d'ignorance par rapport à ce pays qui vous a adopté, la France. La France ignore qu'on peut avoir une enfance africaine tellement heureuse, tellement créative.
Oui, c'est vrai que vu... on a comme l'impression que c'est vrai que l'Afrique est pauvre, donc... tout est pauvre du coup, tout va mal. Alors que non, on a une enfance, on a des parents qui nous aiment, on a une vie semblable à tous ces milliers autres enfants. Moi, c'était juste me dire... parce qu'en fait, il y a un moment, lorsque vous vivez ailleurs, vous êtes heureux, moi je suis heureuse ici. Ça fait plus de 30 ans que je vis ici. Encore une fois, la France, c'est aussi une patrie, c'est ma patrie culturelle. Hein, et il y a un moment... ce que nous renvoient les médias occidentaux du continent africain, moi, ça me gênait énormément. J'étais mal à l'aise avec ça, parce que j'ai la chance d'aller souvent en Afrique. J'ai tous mes parents en Côte d'Ivoire. Et quand j'y vais, c'est une jeunesse qui se bat, et une jeunesse intelligente, dynamique, qui veut réussir sur place aussi. Et je me suis dit, mais il faut que je raconte ça. Tous ces enfants aussi qui jouent dans la rue, comme moi, enfin, comme ce que je faisais quand j'étais petite. Et pour moi, il y avait une vérité. Il fallait qu'une vérité se fasse. Et c'était à moi de la raconter, cette vérité.
fille.
J'ai comme gramophone.
Je remarque que vous avez comme une certaine Fifi Brin d'Acier des taches de rousseur. Vous voyez. L'adorable petite peste que vous êtes, Marguerite Aboué, a toujours envie d'écouter une certaine Cyndi Lauper. C'est l'heure de Girl Just Want to Have Fun. Quelles images vous avez en tête quand vous écoutez ça? Vous pouvez prendre votre café en même temps, pas de problème.
Oh là, ça c'est mon adolescence à Paris. On a beaucoup dansé sur Cyndi Lauper dans nos booms. Et puis moi j'étais punk.
Et avec la coiffure qui va avec.
Avec la coiffure qui va avec.
C'est-à-dire
et j'étais rasée des côtés et puis j'avais une petite crête et je m'habillais, j'avais des Doc Martens, et puis j'avais un groupe de musique. Moi j'étais la chanteuse et le groupe on s'appelait Tintamar, genre Mar la société. Et donc on écoutait Clash, Béruré Noir, Siouxsion The Banshees et c'est vrai que même si Cyndi Lauper n'était pas une vraie punk, je l'aimais beaucoup.
Dans la cour commune de Marguerite Aboué, qui veut du fun elle aussi. Hein, ça se négocie joliment en sol majeur. Faut vous dire quand même que le glauque ne fait pas partie du pays de Marguerite Aboué, même quand elle parle de criminalité en Côte d'Ivoire avec son commissaire Kwame. Dans la tête de cette raconteuse d'histoire, en BD, en film ou en série, il y a toujours deux ingrédients qui font la Côte d'Ivoire d'ailleurs, cette Côte d'Ivoire où elle est née. L'humour, pour blaguer tuer, comme on dit là-bas, et puis le français ivoirien, ton pied mon pied, sinon yadra. Depuis le succès phénoménal d'Aya de Yopougon, le grand public en redemande, dans les séries télé, il aime rire de ses belles-mères tyranniques. Et puis en BD, il aime tourner les pages de cette Afrique névrosée mais inventive. Peut-être que ça va avec d'ailleurs. La belle humeur et le bel humour de cette franco-ivoirienne vient sans doute de cette boîte noire qui est son enfance à Yopougon.
Em que língua falam vocês de amor?
Bala tubo meman himbi babira tubo luangira bi mange.
Dans quelle langue parlez-vous d'amour?
En français. Sinon, quand mon fils était tout bébé, ben, je lui chantais, moi, mes petites comptines dans la langue de ma mère.
À savoir?
C'était l'ombato. Et c'était la seule langue que je comprenais en Côte d'Ivoire. Parce que mon père et ma mère n'ont pas la même ethnie.
À savoir
mon père est ébrié et ma mère en bateau. Et je l'emploie surtout quand je veux gronder mon fils et que je ne veux pas qu'on entende ce que je lui dis. Et puis sinon, celle de mon père qui est un peu plus disparue quand même parce qu'on est plutôt l'enfant de sa mère.
C'est joli.
Si vous deviez, par exemple, déclarer votre flamme un de vos héros d'enfance, on a le droit de dire zéro aussi.
Zéro, oui.
Un certain Raon. Les amoureux de la BD savent de quoi je parle. Comment vous lui diriez ça en ouchi à Raon, que vous l'aimez?
Non mais toi, tu m'enjailles trop. Avec ton corps musclé là, eh non, tu peux me dire.
Par exemple. Car vous avez gravé en vous vraiment ce nouchi qui a totalement enjaillé l'univers des films d'animation. Il est midi, dans un maquis de Yopougon, Aya. Cette go trop chic a accepté de faire palabre avec cet idiot d'Hervé. Aya de Yopougon, extrait.
T'es belle des Aya.
Oui, Hervé, ça fait 10 fois que tu me dis ça. T'as rien d'autre à me raconter?
Si, t'as un gars.
Pourquoi?
Rien. C'était juste une demandaison.
On ne dit pas demandaison, mais une question.
Tu connais papier de blinde?
Pourquoi tu ne vas pas à l'école, Hervé?
Parce que personne ne m'a dit d'aller là-bas.
Et ça fait combien de temps que tu habites chez ton oncle?
Longtemps. Depuis que je suis petit Kakaba.
On ne dit pas Kakaba. Il t'a jamais mis à l'école?
Non. Il dit que je suis trop nul.
Et toi, tu le crois, bien sûr?
Oui, que. S'il dit ça, c'est que c'est vrai. C'est mon tonton, non?
Personne n'est nul, Hervé. Même pas toi.
T'es gentil, Aya. Je ne savais pas qu'il te plaisait beaucoup comme ça, même.
Tu ne me plais pas, Hervé. Tu me fais pitié, c'est tout.
Ouais. C'est pas grave, je prends quand même.
J'ai une demandaison, Marguerite Aboué, pour un seul match. Non, franchement, qu'est-ce que vous aimez, vous, dans ce français ivoirien qui est une sorte de créole, en fait?
C'est ce que les Ivoiriens en ont fait, justement, de ce français. Cette langue imposée, ils se l'ont appropriée.
Donc, la particularité, par exemple, c'est d'avoir enlevé tous les articles.
Ça, c'est parce qu'ils sont un peu paresseux, je trouve. Non, en fait, la particularité, c'est ce mélange de français avec toutes ces ethnies et le fait que la première définition n'est pas vraiment la même. Elle change. Quand on dit qu'une femme est sincère, le mot sincère, sincère, c'est qu'elle a du monde au balcon. Enfin, voilà, je trouve ça... Pour moi, c'est des poètes, c'est des inventeurs et... Les Africains sont plus francophones aujourd'hui que les Français eux-mêmes, vu ce qu'ils ont fait de cette langue.
Ce sont des auteurs en herbe, en fait, tous les jours. Mais vous dites, ils sont, c'est les locuteurs du Nouchi, ils sont poètes. Mais vous faites partie de ces locuteurs. Je me demande même si ce n'est pas votre identité première, cette langue, Marguerite Aboué. Le Nouchi n'est pas votre langue naturelle?
Non, ce n'est pas ma langue naturelle. D'ailleurs, le Nouchi, moi je me souviens que mes parents ne voulaient même pas qu'on parle les mauvais français, en fait. Parce que, à l'école, non, il fallait être bon en français, justement, et mettre les articles. Alors, non, moi c'est quelque chose que j'ai volé.
À propos d'identité, est-ce que vous, Marguerite, vous vous sentez, vous diriez, africaine ou ivoirienne?
Je me dis africaine avant de dire ivoirienne. Parce qu'encore une fois, ce quartier de Yopougon était tellement métissé que je ne peux pas, moi, juste dire que je suis ivoirienne.
Donc vous secouez le concept de l'ivoirité qui est en train d'abîmer les liens entre les Ivoiriens.
Non, mais moi, j'étais ici et j'ai pris de plein fouet tout ce qui s'est passé à Abidjan sur cette histoire d'ivoirité en Côte d'Ivoire et ça m'a beaucoup peinée. Parce que moi, justement, mon travail, c'est de parler de ces Ivoiriens qui ont fait ce pays. Et c'est pour ça, la famille d'Aya, le père, il s'appelle Ignace. La mère, c'est Fanta. Fanta, c'est musulman. Ignace, c'est français. Et Aya, c'est d'ethnie des Baoulés. Toutes les jeunes filles qui naissent en vendredi s'appellent Aya. Akissi, c'est Baoulé. Fofana, c'est Djoula, c'est musulman. Donc, j'ai vraiment fait exprès de mettre toute cette population dans une famille. D'ailleurs, il y a quelques Ivoiriens qui m'ont dit, mais tu mélanges tout, t'as pas compris. Et là, je dis, mais justement, je pense que j'ai tout compris.
Alors, cette Aya, 19 ans, magnifique, très belle, c'est l'héroïne parfaite sous votre plume, Marguerite Aboué. Et peut-être la moins ivoirienne de ses copines, je dirais. Parce qu'à propos des études, par exemple, elle dit ne pas vouloir finir en série C. Coiffure, couture, chasse au mari.
Alors, non, je pense que Aya, c'est la vraie ivoirienne. Le fait qu'elle soit heureuse dans ce quartier. Elle apprécie ses amis, même si elles sont différentes d'elle.
Oui, mais la majorité de ses amis souhaitent finir en coiffure, couture et chasse au mari.
Oui, mais c'est pas ça qui font d'elle de vraies ivoiriennes.
Alors, ça donne un baromètre de la mentalité des filles en ce moment, non?
En même temps, qu'on soit clair, hein, les séries C, c'est pas péjoratif du tout. Aujourd'hui...
Pour Aya, ça l'est.
Mais en fait, elle critique pas. Elle ne dit pas « ce n'est pas bien ». Elle dit qu'elle, elle a d'autres ambitions. Elle veut être médecin. Et ses copines qui lui disent, bah, nous... en fait, il y a aussi un proverbe qui dit que lorsque le stylo est trop lourd pour vos mains, la machette ou la daba sera plus légère. On n'est pas tous égaux sur les bancs de l'école. Et ça, je pense que les copines d'Aya l'ont compris. Elles se disent, bah, Aya, toi tu parles le gros français compliqué. Nous, on n'est pas comme toi. On a le droit d'être différent, de ne pas vouloir faire des grandes études. Mais encore une fois, aujourd'hui, moi je connais beaucoup d'amis qui ont fait énormément d'études. Et la plupart du temps, on ne trouve pas. Et elles sont obligées d'ouvrir des salons de coiffure. Et ça marche. Et ce n'est pas du tout péjoratif, en tout cas.
De quoi est fait votre imaginaire, Marguerite Aboué? Ça, c'est la question en sol majeur que je me pose.
May, réveille-toi, ça suffit maintenant.
Hein?
Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas que tu dormes ici.
Il est parti.
De quoi tu parles?
Oh, il est parti.
Qui est-ce qui est parti?
Totoro, j'ai joué avec lui.
Totoro? Comment ça, tu as vu Totoro, le personnage du livre?
J'ai même grimpé sur son gros ventre. Il avait des poils et une énorme bouche. Il y en avait un petit aussi. Et un comme ça. Et un autre énorme qui a un très gros ventre.
Satsuki? Ah, vous voilà.
Quand je l'ai vu, il dormait près de l'arbre géant.
Apparemment, il n'est plus là.
Ne m'en fais pas. J'ai vu Totoro, je m'en pas.
P. Comme.
Je dis la vérité.
Petite mythologie personnelle.
Alors, on sait déjà qu'il y a du Miyazaki dans cette petite mythologie de Marguerite Aboué avec le fameux Totoro, mais il n'est pas beau, Totoro.
Non, alors, moi, ce que j'aime chez Miyazaki, c'est qu'il n'y a pas de méchant ni de gentil. Et le héros, enfin, peut être laid. Et moi, je suis plus dessin animé japonais qu'américain. Tous les films d'animation qui viennent... des États-Unis, c'est les forts. Moi, j'adore les losers.
Ah oui?
Oui, j'aime bien les gens qui vont pas réussir, mais c'est pas grave, la vie continue et on essaie et puis on y va. J'essaie d'en faire dans mes histoires des gens qui forcément ont tellement la niaque. C'est pas grave, on les aime, on les aime pas. Ce que j'aime aussi, c'est tous les films italiens des années 50. Toto et j'aimais quelques films comme Le Pigeon, justement, quand je parlais de losers.
Vittorio Gassman.
Voilà.
C'est des losers qui ont du panache quand même. Hein.
Et surtout, ce que j'aime, c'est qu'ils sont dans leur quartier, dans leur ville. On sent qu'ils font partie de ce quartier. Et quand je regarde ces films-là, je ne connais pas ce quartier, mais j'y m'y crois. On y est. Et c'est ce que je veux montrer, en tout cas moi, avec tout ce que je fais, qu'on est ce qu'on est parce qu'on fait partie d'une terre.
Peu de références quand même par rapport au cinéma français ou africain.
Moi, en fait, j'ai découvert le cinéma africain. Enfin, si je peux dire africain, parce que le cinéma africain, c'est vaste.
On rappelle que l'Afrique n'est pas un pays.
C'est ça. Et j'aime bien des comédiens comme Villeray, avec Black Micmac. Enfin, c'est un peu...
C'est pas caricatural, ça, comme film, sur l'Afrique, justement?
Oh non, je pense qu'il y a eu pire.
Ah oui, forcément, ça y a toujours pire.
Il y a eu pire, mais en tout cas, Black Micmac, lorsqu'aujourd'hui, j'ai des Africains qui m'accostent et qui me disent oh, « faites-nous des films à la Black Micmac », je me dis « ils se sont peut-être retrouvés dans ce film », puisque aujourd'hui, les films qui viennent d'Afrique, où c'est tellement contemplatif, malheureusement, ça n'intéresse tellement pas les Africains, c'est parce qu'ils ont envie de voir, en tout cas au cinéma, oui.
En tout cas, l'amour du scénario vous va bien, Marguerite Aboué, jusque dans cette série télé que vous avez créée. Premier feuilleton panafricain entièrement produit sur le continent. C'est la vie, c'est le titre, avec dans votre potion magique des gens ordinaires, un quartier, forcément, et des problèmes à l'ivoirienne. Extrait.
Tu sais ce que ta femme a encore fait?
Bonjour, maman.
Elle a brûlé ton repas, mal lavé le linge. Regarde mes habits.
Mais ça a l'air propre, maman.
Ta femme ne fait rien de bon dans cette maison. Et en plus, elle aime trop me faire parler.
Maman, s'il te plaît, toi aussi, laisse-moi au moins rentrer. Tu as pu passer du temps avec tes copines?
Tu sais...
Ah bon? Tu la défends? Je t'ai dit qu'elle a brûlé ton repas.
C'est vrai? Tu as brûlé mon repas?
Tala, c'est parce que je faisais le linge en même temps.
Celle-là, c'est jamais de sa faute. Et en plus, elle me fait trop parler.
Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger maintenant? Hein?
T'en fais pas. Je t'ai préparé autre chose que t'aimes bien. La bouillie de maïs.
Merci, Amadé. Je vais enfin pouvoir mettre quelque chose dans mon ventre. Au fait, il y a Ramotou qui te salue, hein?
Ah oui, moi de même.
Tu vois, elle ne sait même pas cuisiner. Elle n'est pas digne d'être ta femme. Je vais te chercher une deuxième épouse et qui s'occupera bien de moi.
Extrait en sol majeur de C'est la vie, donc une série télé créée par notre invitée Marguerite Aboué et diffusée dans 44 pays de l'Afrique subsaharienne. Waouh! Et alors, voilà, ça c'est la grande nouveauté, adaptée pour la radio et diffusée sur RFI à partir du 1er juillet jusqu'au 12 août à 12h10, temps universel. Évidemment, c'est toujours joyeux, c'est plein d'humour, mais il y a quand même de l'autocritique dans l'air, non?
Oui, oui. Cette série aborde les thèmes de santé propres aux femmes. Et ça parle de santé sexuelle et reproductive. Ça parle de planification familiale. Ça parle aussi de mortalité mère-enfant et de violence faite aux femmes. Et si j'acceptais, moi, de faire cette série, c'est parce que je souhaitais donner la parole à ceux qui n'en ont pas ou peu. Et c'était pour moi un vrai défi. D'informer en divertissant.
Oui, c'est, on va dire, 30% de pédagogie et puis 70% d'imaginaire abouessien.
Abouessien, et puis aussi Charlie Beneteau, mon co-scénariste qui me suit aussi dans cette aventure, et raconter des problèmes liés à une région, mais qui peut aussi s'exporter. Parce que les problèmes de santé, de violence faites aux femmes, bah, c'est dans le monde entier. Mm-hmm. Quand vous entendez les chiffres...
Vous en avez un sous le coude?
Une jeune fille sur trois est mariée et accouche avant 15 ans. C'est
un chiffre.
C'est un chiffre énorme.
Mais avec Aya, vous racontiez déjà effectivement ce qui fait la société ivoirienne. En vrac, les filles qu'on veut marier de force, celles qu'on marie à un vieux tonton... Celles qui se font enceinter par le premier broussard, les pères alcooliques, les pères aussi gros que leur argent, les faux parisiens qui sont poches trouées, les garçons qui aiment les garçons, mais en cachette, parce que c'est bien connu, l'homosexualité, ça n'existe que chez les blancs. C'est-à-dire que vous radiographiez quand même régulièrement la société ivoirienne. Est-ce que ça s'est bien reçu de la part d'une presque toubab? Vous êtes presque une toubab, Marguerite Aboué, non?
C'est parce que je connais ces problématiques. Je disais que j'allais souvent en Afrique.
Oui, mais y aller, c'est pas y vivre.
Mais même quand on est éloigné, on vous appelle pour nous dire souvent que, ah ben, tu sais, il y a ta cousine qui est décédée parce qu'elle elle a essayé d'accoucher toute seule. En fait, moi je vis en France, mais je suis juste une humaine. Je m'intéresse à ce qui se passe autour de moi, et surtout en Afrique, et parce donc, que j'ai des attaches.
Vous racontez ces tracas de la vie quotidienne africaine par, vous diriez, par devoir ou par inspiration ?
Je pense que c'est pas par devoir ni d'inspiration. Je pense que j'ai juste envie de raconter une Afrique, une certaine Afrique, plutôt que de la laisser raconter par d'autres personnes et que ces personnes la racontent mal. Je préfère moi le faire, même si c'est avec cette légèreté, parce que je pense que le fait d'être loin du continent, ça m'aide à prendre aussi du recul et de pouvoir raconter ces histoires légères. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de créer des personnages, et puis qu'on suive ces personnages, qu'on s'y attache, et qu'après qu'on s'identifie à ces personnages, en se disant, mais en fait, c'est des gens comme nous.
Mais Aya, c'est moi, je vous l'annonce. Alors, vous savez magnifiquement raconter la jeunesse ivoirienne. Est-ce que ça vous intéresserait de raconter la jeunesse de nos banlieues françaises ?
Oh oui, surtout que je la rencontre, je l'ai même pratiquée. Et aujourd'hui, j'ai plus qu'envie parce que je la trouve triste.
Vous êtes témoin de cette fracture identitaire.
Vraiment. Et je fais beaucoup de rencontres scolaires. Là, cette année, je travaille avec une classe de 5e et on fait une bande dessinée ensemble. Et c'est très, très compliqué parce que ils sont complètement perdus. Par exemple, quand je dis que je suis française, je me fais presque gronder. Ces enfants qui me disent « Mais oui, mais madame, vous êtes africaine. » Je dis « Mais oui, mais je suis française aussi. » Et je dis « Mais comme vous, vous êtes né en France, vous êtes français. » « Ah ben non !» Et donc, ce rapport à la terre, au pays où ils sont nés, ça me touche parce qu'en fait, aujourd'hui, mon rôle, c'est vraiment s'amuser sur l'éducation, que ce soit ici ou là-bas. Parce que quand je vais en Afrique, je vais dans ces écoles et que la plupart de ces jeunes-là me disent « Bah, c'est mieux ailleurs. » Et que quand je suis en France, toute cette jeunesse me dise, mais forcément, nous, le bled, c'est mieux. Il y a un vrai problème. Et ce problème-là, moi, je le dis encore une fois, ce sont les joues qui rendent la figure belle.
Proverbe maternel ?
Proverbe africain. Et c'est aux parents qui doivent raconter leur histoire à leurs enfants.
Est-ce que ce serait possible en régie, je regarde tout à coup notre chère Laura Pinto, d'avoir une petite musique, genre suspense ou genre enquête policière ? Il fait nuit lorsque le commissaire Kwame est tiré du lit par un coup de fil du ministre. Le cadavre du célèbre magistrat Traoré Compliqué vient d'être découvert à l'hôtel Sous les Tropiques, un hôtel de passe. Alors voilà notre commissaire affublé d'une femme qui se fiche complètement de ses fonctions, et puis d'un Arsène, son adjoint, un blanc. Vous avez vu un blanc quelque part, vous ? Aux trousses des plus grands criminels d'Abidjan, dans une mini Austin 1959. Alors voilà que vous vous frottez à un autre genre, l'enquête criminelle, le commissaire Aboué. Pourquoi diable ?
Parce que j'ai la chance d'avoir un théâtre à ciel ouvert. Comme ville qui est Abidjan.
Ça reste votre théâtre de prédilection.
Ouais. C'est ça. J'ai une arène aussi incroyable. Et ce qui m'intéressait, encore une fois, c'était de créer un personnage, un héros. Malgré ses méthodes pas très catholiques, ce type est un héros parce que il a juste envie de faire justice, voilà, de que la justice soit faite, enfin que la vérité soit. Et ça, il emploie tous les moyens.
Qu'il a à sa disposition, le ministre lui donne tous les moyens. Mais enfin, on découvrira après que c'est une supercherie, en fait.
C'est une supercherie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont impunies en Afrique. On sait très bien qu'il y a beaucoup de corruption aussi. Et voilà un type qui n'est pas corruptable. Je ne sais pas comment on dit ça.
Corruptible.
Voilà.
Les incorruptibles, vous connaissez.
Voilà un type qui n'est pas corruptible. Et ça, je trouve ça génial. Et j'aimerais bien qu'il y en ait des tas de commissaires un peu comme ça dans toute cette Afrique où il va pas être emballé par des yazebiers, on va pas lui donner de mallette, il va tout faire pour que la justice soit rendue.
Enfin, donc c'est un message en fait que vous envoyez à la Côte d'Ivoire.
Mais tout ce que je fais, ça part en tout cas d'une situation, d'une phrase entendue, d'un visage.
Justement, ce commissaire Aboué, là, nous offre un magnifique suspense. On est en fait dans une affaire de mœurs qui concerne l'homosexualité et les travestis en Côte d'Ivoire, et ça a atteint les hautes sphères de l'État. Est-ce que vous êtes tombée sur un fait divers pour raconter cette histoire, Marguerite ?
Je m'imprègne d'énormément de choses. Je connais ce quartier où mon mari m'a laissé.
C'est quoi ce quartier ?
C'est un quartier où il y a des femmes qui se retrouvent seules, avec enfants, parce que c'est moins cher, parce que les maisons sont en bois.
Quartier baptisé Mon mari m'a laissé.
Mon mari m'a laissé. Et tout ça, ce sont des choses qui me touchent, qui me parlent. Et donc, forcément, j'ai envie de les mettre quelque part. Et pour moi, ce commissaire était vraiment le héros qu'il fallait pour mettre en valeur toutes ces femmes. Parce qu'en même temps, c'est un grand féministe. Et en plus, c'est un homme complètement ouvert. Il se moque que Marie-Jo est le Blue Coast, cet endroit où elle emploie des travestis. Pour lui,
Marie-Jo, c'est une tenancière.
C'est une tenancière et c'est même une amie à lui. Il connaît ce quartier. Mon mari m'a laissé parce que justement, il aide ces femmes-là. Et en plus, il travaille avec une petite policière opportune. Il refuse que ses collègues, en tout cas masculins, lui parlent mal. Et ça, pour moi, c'est un héros, oui.
W comme Western.
Et oui, il était une fois Terre gâtée qui vient de sortir, parce que donc l'imaginaire de cette petite Akissi qu'on évoquait, devenue la maman d'Aya Diopougon, cet imaginaire est tellement foisonnant qu'il s'est mis au service d'un western. C'est le cas dans cette nouvelle BD, Marguerite Aboué. On n'est plus du tout dans votre univers habituel.
Oh, si, l'Afrique.
c'est une autre Afrique,
oui,
là,
quand alors
même.
C'est, alors, T'es gâté, Ange le migrant, c'est le premier tome, on va en faire trois autres. Pourquoi ce genre ?
Ce western, contemporain africain.
Contemporain africain. En fait, ce genre nous permet, avec Charlie, de parler d'un sujet d'actualité, qui est des migrants. Enfin, et on a eu l'occasion de rencontrer, lors de notre périple africain, des migrants, des jeunes comme ça, qui sont partis de leur pays et qui ont traversé tout ce désert pour atteindre la mer, l'eau comme on dit, et qui se sont arrêtés au Sénégal ou en Côte d'Ivoire ou ailleurs, parce qu'ils n'ont pas pu aller plus loin. Et je me suis dit, c'est aussi de mon devoir en tant qu'auteur de raconter aussi ces problèmes-là.
Alors, les dessins sont absolument somptueux. On est à la fois dans la peinture, presque dans la photographie, un petit peu aussi dans le cinéma. Mais alors, ce qu'on remarque, et on vous la fait régulièrement, cette remarque, c'est qu'il n'y a toujours pas, après Clément Oubrerie, qui a travaillé avec vous sur Aya Diopougon, on n'est toujours pas avec des dessinateurs africains à votre bras, Marguerite Aboué, toujours pour raconter cette Afrique en même temps.
C'est vrai. Peut-être que c'est parce que je n'ai pas trouvé une histoire qui sera illustrée par un dessinateur africain.
Ce serait quoi alors cette histoire ?
Peut-être une histoire qui va se passer peut-être à Paris. Non, en fait, pour travailler avec un dessinateur, il faut aimer son univers, il faut aimer son dessin.
Vous n'êtes pas à dire qu'il n'y a pas de dessinateur africain ?
Ah non, pas du tout. Oh, non, au contraire, je dis même qu'il y en a beaucoup et qu'il y en a eu avant moi, il y a eu des femmes aussi. Et je ne suis pas la seule, parce qu'on a comme l'impression que je suis la seule femme noire qui fait de la BD. Mais non, il y en a eu d'autres. Pour l'instant, ce n'est pas parce qu'ils sont africains qu'il faut absolument que je travaille avec eux.
Ce n'est pas la carte d'identité qui fait la qualité. Ça sera la vraie, vraie, vraie réponse.
Oh oui.
Un sol majeur. @rfi.fr.
Alors on va résumer, à lire chez Gallimard, bande dessinée, Aya Diopougon, Akissi Faux Départ, Commissaire Kwame, Un si joli jardin, et aux éditions Rue de Sèvres, magnifique, hein, c'est presque avec des peintures, Terre gâtée, Ange le migrant, autant dire que vous avez de quoi buller. Alors je sens qu'on pourrait éventuellement encore s'enjailler deux minutes avec vous et rouler du tassaba. On a l'image.
Oui.
Sur Prince Nico Mbarga, pourquoi lui ?
Je choisis Prince Nico parce que ma mère le trouvait beau.
Stop, c'est une bonne raison.
Today,
Sol majeur avec Facebook, Twitter et bien sûr, vous le savez désormais, en podcast sur notre application Pure Radio. Ça marche, hein ? Oui, j'ai testé, ça marche. Et derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10 temps universel, 16h à Paris, Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous retrouve et on vous espère la semaine prochaine avec un styliste magnifique nommé Iman Aïssi. À la semaine prochaine. Tout à